Merci Eric. Hop, on s'organise. Tac. Oh, vous allez bien? Je crois qu'on n'est pas hyper nombreux, mais la qualité est là, tout va bien. Ouais, donc c'est un plaisir de se retrouver avec vous ce matin. Merci Eric pour tout ce temps où tu nous as accompagnés dans la louange pour notre Dieu. Et je me permets de rappeler aussi qu'accessoirement la prédication fait partie de cette louange à Dieu. Le but, c'est que le Seigneur puisse toucher nos cœurs et que nous puissions être reconnaissants, que nous puissions continuer à le louer, à la fois pendant ce temps que nous passons maintenant, mais aussi que cela nous accompagne durant cette semaine, qui est aussi une semaine particulière et qui précède la Pâque. Nous sommes ce matin donc dans Marc chapitre 10, versets 17 à 31, et je vous invite à prendre ce texte, à le chercher pendant que je rappelle brièvement le contexte dans lequel nous sommes. Ce qui a été vu précédemment, donc nous avons Jésus qui vient d'enseigner à des pharisiens un certain nombre de choses sur le mariage, sur le divorce. Il a ensuite enseigné à ses disciples la façon dont il fallait être humble, authentique, comme des enfants le sont. Et puis enfin, vient un jeune homme. Selon les passages, dans la parole où il nous est relaté cet épisode, on parle d'un jeune homme qui est riche, un jeune homme qui est en fait un notable, un jeune homme qui est connu, qui est reconnu. Ce jeune homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a bien réussi. Et pendant que Jésus se met en chemin, ce jeune homme accourt à sa rencontre pour lui demander quelque chose. Et là, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre le texte. On va lire ensemble ce passage et on va essayer de voir ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à celui-ci. Donc Marc, chapitre 10, versets 17 à 31. Et je commence donc au verset 17. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »« Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme le regard plein d'amour et lui dit « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se demandaient entre eux, « Mais alors, mais qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et leur dit, « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Nous, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. » On voit ici un homme qui vient vers Jésus. Il vient vers Jésus pour savoir comment avoir la vie éternelle. Bonne question. Et tout à fait honnêtement, quand on regarde à ça, on se dit, mais en fait, c'est bien que ce jeune homme vienne vers Jésus pour poser cette question. Parce que c'est une question à se poser quand même. Comment avoir la vie éternelle? Ça semble être une bonne chose. Mais on va essayer de creuser un peu, on va essayer de creuser ensemble pour voir quelles sont les motivations de cet homme. On ne va pas s'arrêter à ce premier ressenti, on va essayer de voir ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je vous propose d'analyser un peu tout cet état d'esprit. L'homme s'approche donc de Jésus avec une question cruciale. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» À ce moment-là, peu d'hommes, et sûrement pas ce jeune homme riche, ne distinguent en Jésus sa vraie nature. Jésus, nous le savons, c'est le Messie, fils de Dieu le Père et Dieu lui-même. Mais ce jeune homme, il ne sait pas tout ça. Lui, ce qu'il voit en Jésus, c'est plutôt un leader. Et Eric nous en a parlé ce matin, ils ne reconnaissent pas encore le roi. Ils voient un prophète, ils appellent le prophète. Ils voient un leader charismatique, un rabbi, qui enseigne aux hommes le chemin de la vie éternelle. Pour eux, c'est un enseignant. Et l'homme croit discerner ici que Jésus, il a la recette. Il sait comment faire. Lui, il est très riche, il est bien en vue. Il fait de nombreuses choses pour s'assurer d'obtenir la seule chose qui lui manque, la vie éternelle. Il est en train de se poser la question avec tout ce que je fais, avec tout l'argent que je gagne, la vie éternelle, comment je fais pour l'avoir? Et en fait, ça n'est pas le seul. C'est très intéressant de voir que ça n'est pas le seul à se poser cette question. À l'heure actuelle, il y a bon nombre de personnes qui essayent d'avoir la vie éternelle. Et ce n'est pas une blague. Si on regarde quelques articles, je vous en ai mis des extraits ici. La vie éternelle est-elle pour demain? En fait, on a plein de dirigeants de la Silicon Valley qui rêvent d'immortalité, qui rêvent de la vie éternelle. Les patrons de la Silicon Valley rêvent d'immortalité. C'est pas rien, hein. C'est vraiment un truc, ils mettent de l'argent là-dedans, quoi. Un laboratoire financé par Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, promet la vie éternelle. C'est un sujet qui est on ne peut plus actuel. Le jeune homme riche, là, c'est le précurseur, en fait. Il aurait dû être à la Silicon Valley, ce gars. Aujourd'hui, ce gars-là aurait une entreprise de la tech, c'est sûr. Et donc, quand on a tout, en fait, on rêve de ce que personne d'autre ne peut acquérir. Ces grands patrons, ils investissent des fortunes pour ça. Ce qu'ils veulent, c'est éradiquer les maladies. Ils veulent arriver à vivre pour toujours, et peu importe le prix que ça coûte, parce que eux, ils ont les moyens. S'ils savaient à quel point c'est en fait simple à avoir la vie éternelle. Mais ce que veulent réellement ces grands patrons, c'est pas juste la vie éternelle. Ils veulent pas avoir la vie éternelle qui est proposée dans la parole. Ils veulent avoir la vie éternelle en restant ce qu'ils sont sur terre. En restant avec la position de pouvoir, avec l'argent, avec tout ce qu'ils ont sur cette terre. Aujourd'hui, ces gars-là, c'est les maîtres du monde, ils sont plus puissants que des chefs d'État. Et ce qu'ils veulent, c'est la vie éternelle, mais dans les mêmes conditions. En fait, ils ne veulent pas simplement une vie éternelle humble et joyeuse au pied du trône divin. Eux, ils veulent s'asseoir sur le trône divin. Et ce qu'ils aimeraient, c'est que le monde soit à leurs pieds. Peut-être que pour cet homme riche, je dis bien peut-être, il y a un peu de cela. Il possède beaucoup. Et on voit dans ce texte, en fait, qu'il ne cherche pas la vie éternelle à tout prix. S'il cherchait réellement la vie éternelle à tout prix, quand Jésus lui dit « va, vends tout ce que tu as et tu auras la vie éternelle », mais il le ferait tout de suite. Il ne cherche pas la vie éternelle à tout prix. Lui, ce qu'il aimerait, c'est que ça puisse continuer à être comme c'est maintenant, qu'il puisse continuer à être celui qu'il est, un notable, quelqu'un en vue, quelqu'un qui est riche. Il est triste, en fait, parce qu'il ne souhaite pas abandonner son statut. Il ne souhaite pas abandonner ses richesses. Il veut la vie éternelle, mais dans sa position prestigieuse. Et ça, en fait, c'est pas possible. Quand il appelle Jésus « bon maître », est-ce que c'est une façon d'attirer d'emblée les faveurs de son interlocuteur? Ou est-ce qu'il considère vraiment Jésus comme bon? Ça, je ne sais pas, en fait. Aucune des deux pistes n'est à exclure. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus va rappeler que Dieu seul est bon. Et pour les disciples à l'époque, comme pour nous aujourd'hui qui avons conscience de celui qui est Jésus, cela nous rappelle évidemment avec une évidence flagrante la réelle nature de Christ. Il est Dieu. Il est bon. Et c'est ce Dieu bon qui offre la vie éternelle. Et si c'est Dieu seul qui est bon, alors c'est Dieu seul qui peut offrir la grâce divine, cette faveur imméritée que l'on appelle communément le salut. Et ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais m'assurer que tout le monde a conscience de cela. Le salut n'est offert que par Dieu. C'est en Dieu seul que se trouve notre espoir suprême. Notre société nous propose une quantité innombrable de solutions, de planches de salut, mais la réalité, c'est que Dieu seul est réellement celui qui peut proposer le salut. En fait, pour la société, on est un produit de consommation, on est une ressource. D'ailleurs, DRH, directeur dans les ressources humaines, on est des ressources. Et des ressources qui, une fois qu'elles seront devenues trop vieilles ou inutiles, on s'en débarrassera. On leur donnera un peu d'argent pour qu'ils finissent tranquillement leur vie, mais on les mettra sur le côté. On est une ressource. Mais Dieu, lui, nous aime réellement. Il nous aime comme personne ne nous a jamais aimés. Et il nous aime comme personne ne nous aimera jamais. C'est ce Dieu bon dont on parle ici. Et c'est ce Dieu seul qui offre la vie éternelle. Et je crois que c'est important de rappeler ces vérités fondamentales. Et ensuite, on a Jésus qui va énumérer les 6 commandements. Vous savez, les 6 commandements qui ont été donnés à Moïse. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Attendez, excusez-moi. On me souffle dans l'oreillette qu'il y aura en fait 10 commandements et non pas 6. En effet, 4 commandements seraient manquants à l'appel. Effectivement, il y a bel et bien 10 commandements. Plus sérieusement, est-ce que ce n'est pas étrange que Jésus cite ces 6 commandements-là et qu'il ne cite pas le premier, le plus important ? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça ? Jésus connaît le cœur de son interlocuteur. Jésus sait ce que son interlocuteur fait déjà, ce qu'il pratique déjà. Et c'est vrai que son interlocuteur est plutôt méritant. Il ne tue personne, c'est un mari fidèle, il ne vole pas, il ne porte pas de faux témoignages. Il ne fait de tort à personne et il honore ses parents. Alors ça, c'est selon ses propres critères, bien entendu, puisque c'est lui qui dit « mais moi, je fais tout ça déjà ». Eh bien, Jésus va lui montrer une chose, il va lui montrer que l'argent, c'est pour lui un Dieu qui est supérieur à Dieu lui-même. L'argent gouverne tant la vie de cet homme qu'il ne peut tout simplement pas abandonner ce qui est à la première place de sa vie. Lui, qui a passé sa vie à accumuler des richesses, il constate amèrement que cette richesse ne peut pas acheter ce qu'il désire réellement. Et là, on se rend compte d'une chose. Quelqu'un qui manque parfois du nécessaire pense avant tout à ce qu'il va manger demain. Il pense à la façon dont il va payer le loyer, il pense à la façon dont il va payer la scolarité des enfants, et lorsqu'il y arrive, parfois, il reconnaît la main de Dieu qui est bon et qui prend soin de lui. L'homme riche, lui, il a tellement tout ce qu'il désire matériellement, qu'il finit par avoir des rêves encore plus fous, et il finit par désirer ce qu'il ne peut pas acheter. Vous vous rendez compte ? Avoir tout l'argent possible, et se dire, mais avec tout cet argent, je ne peux pas acheter ce que je désire réellement. La frustration qu'il doit y avoir. Jacques nous rappelle dans son épître, que si on manque à un seul des commandements, on est fautif envers toute la loi. Et c'est pourquoi en fait ce jeune homme, bien qu'il fasse plein de choses, il est en fait fautif devant toute la loi. Il ne respecte pas le premier commandement. Donc il ne peut pas, par sa façon d'être, par sa façon de faire les choses, il ne peut pas accéder par lui-même à la vie éternelle. C'est son besoin de Jésus en tant que Messie qui se révèle en fait ici. Il ne peut pas accéder tout seul à la vie éternelle. Et quand ce jeune homme se rend compte donc que Jésus lui demande d'abandonner toutes ses richesses, d'abandonner ce faux Dieu qu'il s'est créé, il s'en va tout triste et la mine déconfite. Et en fait, ça n'est pas l'argent en soi, l'argent c'est un moyen qui est un problème. 1 Timothée 6,10 nous le rappelle, c'est bel et bien l'amour de l'argent qui est un problème. Jésus montre en fait à cet homme que son engagement a un prix, et ce dernier n'est pas prêt à payer ce prix. Jésus présente vraiment et authentiquement le moyen de salut. Ce qu'il veut, c'est que cet homme devienne un vrai disciple, mais la porte est trop étroite, le prix à payer est trop grand. Et Jésus parle en vérité, il montre très honnêtement ce qu'il faut faire. Les jeunes ont une expression que j'entends souvent au collège. Peut-être que les jeunes là-bas, ils vont me dire « Non, mais il a has-been, il n'a rien compris. » C'est possible, et je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Mais en tout cas, j'entends plein de jeunes dire « En vrai. » « En vrai, il est trop sympa, ce gars-là. En vrai, il y a ça. » Et d'ailleurs, il faut se poser la question, est-ce que des fois, quand ils disent pas « En vrai », ça veut dire que le reste est en faux ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils utilisent cette expression. « Ouais, mais en vrai, c'est trop ça, quoi. » Ok, en vrai. Et bien en fait, là, Jésus, il parle en vrai. Il parle authentiquement. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il lui apporte des vraies solutions. Et en fait, Jésus fait souvent ça avec nous. Il met le doigt sur ce qui ne va pas. Il nous révèle ce qui nous manque réellement. Jésus le fait avec le jeune homme riche, là. Et lorsqu'on se met à son écoute, il le fait aussi avec nous. Quand on est à l'écoute de Dieu, Jésus nous montre réellement ce qui ne va pas. La condition radicale de la vie éternelle, c'est d'abandonner le faire que le jeune homme riche pratique pour pouvoir être. Le jeune homme riche, comme on le dit, c'est un notable, c'est un homme en vue. Un homme plein de succès, successful, comme on dit aux States. Et il en tire un certain orgueil, d'ailleurs. Il dit, mais moi, je fais déjà tout ça. Et c'est bien là le problème. Il fait pour avoir. On le voit dans ce passage que je vous ai remis ici. « Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Quoi que fasse cet homme, il manquera toujours quelque chose. Pour nous aussi, quoi que nous fassions, il nous manquera toujours une chose. Il ne fera jamais assez, ce jeune homme. Mais pourquoi ? Parce que c'est Dieu seul qui est l'artisan du salut. On va même aller plus loin. C'est par notre incapacité intrinsèque à tout bien faire et à respecter parfaitement la loi. Cette loi qui révèle d'ailleurs la sainteté de Dieu, qu'en définitive, seul Dieu peut être l'artisan du salut. Nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, accomplir la loi. Je vous rappelle que la loi, elle était présentée pour nous montrer notre péché, pour nous montrer la sainteté de Dieu et pour nous montrer le besoin que nous avions d'un sauveur. Le jeune homme dit en substance, « Je veux savoir quoi faire pour avoir la vie éternelle. » Jésus lui répond simplement, « Mais Dieu en premier, et tu recevras la vie éternelle et tu pourras me suivre. » C'est ça qui est important. L'homme riche, donc, face à sa déception, repart. Et là, on arrive à la partie commentaire de texte de Jésus avec ses disciples, et particulièrement Pierre. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous le voyez dans ce texte, mais cette phrase, c'est une amorce. En fait, Jésus amorce ici de façon subtile le moment de questionnement des disciples. En fait, là, il est en train de dire, allez-y les gars, vous avez plein de questions, on va commencer. Son but, c'est avant tout de les former, de les enseigner. Et il sait en fait qu'ils ont des questions. Et c'est cette amorce-là qui lance la discussion. Le texte nous dit que les disciples sont étonnés et se disent les uns aux autres, mais alors, qui peut être sauvé ? Et en fait, cette phrase, qui peut être sauvé, elle pourrait nous étonner aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle des riches, on ne pense pas forcément aux gens les plus honnêtes de la terre. Et si je vous dis, si un riche ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé ? Vous allez me dire, franchement, si je pensais au salut, ce n'est pas aux riches que je penserais en premier, quoi. Parce qu'on ne se dit pas forcément que c'est les plus honnêtes qui soient. Mais en fait, à l'époque, ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Il faut comprendre, et pour moi, ça a vraiment été ça, une des clés de la compréhension de cette réaction, c'est qu'à l'époque, la richesse d'une personne, c'était un signe de bénédiction de Dieu. Et si on comprend ça, en fait, on comprend la réaction des disciples. En fait, on ne compte pas les exemples de personnages vétérotestamentaires que Dieu a bénis par de grandes richesses. Les grandes richesses, c'était une bénédiction de Dieu. Et en fait, ils ont cet état d'esprit. Ils disent, mais si cet homme-là, là, si cet homme, il est riche, c'est qu'il a été béni par Dieu. Et s'il a été béni par Dieu et que lui, il ne peut pas accéder au salut, à la vie éternelle, mais en fait, qui le peut ? Vous comprenez l'état d'esprit ? Et ça change les choses. Ça nous permet à nous de comprendre, en fait, pourquoi ils ont cette réaction. Et Jésus dit quoi ? Il dit, aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce verset, il est capital. Pierre et les disciples, ils ne comprennent pas quelque chose. Si cet homme, qui semble avoir une bénédiction particulière de Dieu, ne peut pas accéder au salut, alors qui le peut ? Et Jésus va poser une base qui est fondamentale. Le salut n'est pas accessible à l'homme par lui-même. Parce que comme nous l'avons vu avec le jeune homme riche, quoi qu'il fasse, il lui manquera toujours quelque chose pour pouvoir accomplir parfaitement, en tout temps et en tout lieu, la loi divine de Dieu. Si un jour, vous me demandez un verre d'eau, et que je vous propose un verre d'eau, alors cette image a déjà été utilisée par le passé, je m'en excuse, je réutilise les bonnes recettes. Si je vous donne un verre d'eau, et que dans ce verre d'eau, je vous le tends et je vous dis, par contre je te préviens, il y a une toute petite goutte d'urine. Mais vraiment, c'est une petite goutte de rien du tout, vas-y, bois. Ah, vous n'allez pas le boire, le verre d'eau. On ne va pas se mentir. Pensons-nous que notre Dieu parfaitement saint va agréer une vie qui n'est pas parfaitement sainte ? Bien sûr que non. La moindre petite goutte de péché, d'imperfection, de non-conformité dans notre vie nous disqualifie forcément pour la vie éternelle. Mais c'est parce que Dieu nous voit au travers de la perfection de Jésus-Christ, dont nous avons accepté le salut, le sacrifice sur cette croix. C'est grâce à cela que nous pouvons avoir accès à cette vie éternelle. L'accès au salut est impossible à l'homme, à tous les hommes. Dans ce verset, Jésus ne parle pas que de l'homme riche, il parle de tous les hommes. Eh bien, ce salut, il est impossible d'accès à l'homme par lui-même. Mais même dans cette situation, avec des hommes imparfaits, Dieu a une solution qui nous est favorable. Merci Seigneur, car rien n'est impossible à Dieu. Et cela, mes amis, c'est la merveilleuse nouvelle de l'Évangile. Nous faisons partie de ces hommes qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes pour accéder au salut. Mais Dieu, lui, nous propose la solution dans son Fils Jésus. Contemplons ensemble ce matin la grandeur de Dieu, qui se révèle dans les paroles de Jésus, « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Face à nos échecs, face à nos limites, cette vérité divine doit élever notre regard au-delà des montagnes d'obstacles que nous pouvons vivre. Ce verset, ce n'est pas une simple formule de foi, mais c'est une réalité vivante qui doit transformer notre manière de prier, notre manière d'espérer, notre manière d'agir. Il y a eu dans les temps passés une multitude de vies qui ont été changées, de destins qui ont été bouleversés, non par la volonté humaine, mais par l'intervention miraculeuse de Dieu. Là où l'homme voit une fin, Dieu voit un commencement. Là où l'homme abandonne, Dieu commence son œuvre. La puissance de Dieu s'exprime là où notre capacité s'achève. La puissance de Dieu s'exprime là où notre capacité s'achève. Ne nous décourageons pas devant l'impossibilité ou l'apparente impossibilité, mais tournons-nous vers Dieu avec foi, sachant que pour lui, tout est possible. C'est dans cette confiance absolue en la toute-puissance de Dieu que se trouve la clé de la persévérance chrétienne et de la victoire sur les circonstances les plus adverses. Et Pierre, lui, qui n'a pas tout compris, viens mettre les pieds dans le plat. Nous, on a tout quitté pour te suivre. C'est bien Pierre, tu as tout compris. Jésus vient donner à ses disciples un appel vibrant à la foi, un appel à la confiance en Dieu, une parole qui rappelle la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme, et donc forcément le besoin pour l'homme de la puissance divine. Et Pierre dit, t'as vu, nous on a bien fait les choses. J'imagine que Pierre se dit, en fait, Jésus, il a demandé au jeune homme riche de tout quitter pour le suivre. Eh bien, nous, c'est ce qu'on a fait, on a tout quitté, on l'a suivi. Il s'imagine, en fait, qu'il y a là une forme de méritocratie dans le sacrifice consenti pour Dieu. Mais ça n'est pas comme ça que Jésus voit les choses. Le principe, encore une fois, n'est pas de se glorifier personnellement d'avoir fait telle ou telle chose, mais de glorifier Dieu. Et Jésus lui fait remarquer qu'il a bien gagné au change. Lorsqu'on pense au fait de tout quitter pour suivre Jésus, on pense parfois qu'il faut abandonner un certain nombre de choses, comme un métier sûr, une belle situation dans une ville que l'on aime. Et c'est vrai que parfois, ça peut être cela. Mais Jésus semble évoquer autre chose ici. Quand Jésus dit de quitter à cause de lui et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, on pense aussi à ceux qui sont rejetés pour avoir fait ce pas de foi. On pense à tous ses frères et sœurs en Christ, qui, parce qu'ils ont décidé un jour de suivre Jésus, sont reniés par leur famille, abandonnés, déshérités. J'ai connu une sœur dont la famille l'avait menacée de mort, car sa conversion au christianisme les condamnait, eux, à ne pas pouvoir accéder au salut dans leur propre religion. Il fallait donc laver ce déshonneur dans le sang. Et bien qu'aussi difficile que soit cette situation douloureuse, Jésus nous dit que nous gagnons, en entrant dans la foi, une nouvelle famille, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Mais encore une fois, Jésus nous parle en vrai. Cela s'accompagne de persécution. On voit la franchise de Jésus. Il ne nous ment pas. N'imaginons pas comme nous le disent ces marchands de bonheur, ces charlatans de l'évangile de la prospérité, n'imaginons pas que devenir enfant de Dieu n'a pas de prix. Ce prix se paye dans les persécutions, dans le renoncement à un certain nombre de choses, la perte parfois de personnes qui nous sont chères. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il nous offre une nouvelle famille, une communion avec lui, et bien entendu, la vie éternelle. Et il y a deux extrêmes qui sont à éviter. La première, c'est la recherche d'une prospérité particulière en devenant chrétien, car, petit spoiler, il y a de grands risques que cela ne fonctionne pas. Les Benny Hinn, les Joel Osteen et autres Joyce Meyer, qui a beaucoup de succès en France d'ailleurs, à mon grand désarroi, ont fait le beurre sur, sur notre dos avec cette façon tronquée de vivre la foi. Cette dernière, Joyce Meyer, a d'ailleurs reconnu en 2019 que cette façon de comprendre la foi était déséquilibrée. Si bien elle a fait un pas dans la bonne direction. Ces prédicateurs, en fait, cachent au milieu de quelques vérités dans leur prédication un grand nombre de compréhensions erronées de la parole. Et parfois, pour une personne qui est mal affermie ou qui n'a pas toutes les connaissances, c'est extrêmement difficile de faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc oui, c'est vrai, c'est une vérité que la persécution fait partie de la vie du chrétien. Et ça pourrait sembler être assez peu vendeur, mais c'est aussi au travers de cela, au travers de ces difficultés, que notre foi va grandir et que l'on va voir la puissance de Dieu réellement s'exprimer. L'autre extrême, je vous ai parlé de deux extrêmes à éviter, l'autre extrême, ça serait de penser que finalement, la foi chrétienne, elle ne peut pas nous apporter la joie. Car en définitive, même les plus riches sont malheureux. Mais là où l'homme n'a pas la possibilité de goûter à l'authentique bonheur par ses propres efforts, eh bien ça, c'est possible à Dieu. Le principe du bonheur et de la joie dans les épreuves, c'est un miracle de Dieu. En abandonnant toutes ces choses qui nous sont chères, tout comme le jeune homme riche aurait pu le faire, eh bien, ceux qui sont les premiers, les plus en vue, acceptent de devenir les derniers. Et les derniers deviennent aussi, selon les critères de Dieu, les premiers. C'est une phrase énigmatique, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Et on le dit souvent quand il y a des courses chrétiennes ou des choses comme ça, t'inquiète pas, t'as été dernier, mais tu seras premier. Ça réconforte. Mais c'est une vérité, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Ce verset, c'est un appel vibrant à l'humilité, à la réévaluation des valeurs du monde. Les valeurs de ce monde sont complètement renversées dans le royaume de Dieu. Les derniers, selon les critères du monde, sont souvent les premiers dans la grâce divine. Ce verset, en fait, c'est quoi ? C'est rien de moins qu'un défi radical à l'ordre social établi, où les notions de pouvoir et de privilège sont complètement renversées. Nous avons tant d'exemples de personnes méprisées par la société mais élevées par Dieu pour leur foi sincère. La vraie grandeur n'est pas mesurée par la richesse ou le statut, mais par la proximité avec le cœur de Dieu. Ne recherchons pas les honneurs terrestres, mais aspirons à la justice divine. Aspirons à servir avec humilité, à aimer avec générosité. Car dans le royaume de Dieu, les valeurs sont inversées. Le service est supérieur à la domination. Le don de soi est la voie de la vraie grandeur. Il y a là une invitation à vivre dans l'imitation de Christ. Et bien qu'étant le premier, Christ est le premier en toute chose, et bien il s'est fait le dernier en se sacrifiant sur la croix. Ce à quoi Jésus nous appelle ce matin, c'est de devenir un disciple authentique, où la grandeur n'est pas mesurée par la domination ou le succès, mais par le service et le sacrifice. C'est à côté de cela qu'est passé le jeune homme riche. Il n'a pas compris que dans le royaume de Dieu, les valeurs sont souvent inversées. Les humbles sont élevés et ceux qui servent sont honorés. Et c'est pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, une critique de la société contemporaine, où la réussite est souvent idolâtrée au détriment total des valeurs du royaume. Jésus lui-même, le premier parmi les derniers, a choisi de servir plutôt que d'être servi, offrant l'exemple ultime de la grandeur dans le royaume de Dieu. En suivant cet exemple, nous pouvons trouver notre place parmi les premiers dans l'éternité. Ne cherchons pas à être les premiers selon les standards du monde, mais trouvons notre identité et notre vocation dans le service désintéressé, en suivant l'exemple de Jésus. Et c'est par une transformation personnelle opérée par Dieu dans le cœur du croyant que les derniers selon les critères du monde seront les premiers dans le royaume de Dieu. Ce verset, c'est également un avertissement contre l'orgueil et l'autosatisfaction. Car les critères de Dieu pour ce qui est premier sont souvent en contradiction avec ceux du monde. C'est un rappel constant que la fidélité à l'évangile exige souvent de renoncer à la gloire terrestre pour embrasser la voie humble du Christ. Si vous êtes chrétien et que vous vous sentez négligé dans cette société, que vous avez le sentiment de ne pas être mis en valeur par celle-ci, parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs que celle-ci, alors ce dernier verset de notre passage de ce jour, c'est une source d'espérance. Car dans le royaume de Dieu, votre valeur est reconnue et célébrée. C'est une promesse que dans l'éternité, les rôles seront inversés et la justice divine prévaudra. Et si vous ne vivez pas cela, je vous exhorte à abandonner vos prétentions et à entrer dans le royaume de Dieu avec un cœur d'enfant. Peut-être que vous êtes parmi les derniers ici-bas, mais vous pouvez être les premiers dans l'au-delà. Et n'oubliez pas que si vous pensez que c'est trop dur à faire, que le pas est trop difficile à franchir, appuyez-vous sur Dieu, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Passez un très bon dimanche.